son Dieu, ni nous verrons la semaine prochaine au cours des mousseaux. Mais avant de commencer notre rapide examen de ce temps du proslogone, je voudrais vous dire quelques mots de Saint Anselme. Saint Anselme est né en 1033 en Lombardie, près d'Aoste. Et il a grandi là, au sein des montagnes. Et c'est pourquoi on l'avait surnommé, bien vite, Puer inter montes nutritus, c'est-à-dire l'enfant grandi entre les montagnes. Et l'expression entre les montagnes peut s'entendre aussi bien au sens physique que géographique, puisqu'il est né en Lombardie, mais aussi en un sens spirituel, parce que, comme vous le savez, toute l'Écriture sainte cherche à nous faire grandir entre les montagnes saintes de Dieu, qu'il s'agisse de la montagne sur laquelle était le jardin d'Éden, qu'il s'agisse du mont Sinaï, qu'il s'agisse du mont Sion, etc. Bref, c'est aussi en un sens spirituel qu'il faut entendre qu'il a été puer inter montes nutritus, l'enfant nourri, grandi entre les montagnes. À cette époque, comme tout au long du Moyen Âge, c'est dans les monastères que se réfugiait la piété et que se réfugiait l'étude. On peut dire que pendant toute la première période du Moyen-Âge, en tout cas, c'est grâce aux moines que s'est poursuivie la méditation de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une explication très simple à cela, c'est que l'imprimerie n'existait pas, les manuscrits étaient très rares, et les manuscrits étaient conservés à l'abri des razzias dans les monastères. Donc il faut comprendre, on a peine quelquefois à comprendre quelle a été l'importance de la vie monastique au Moyen-Âge, parce que, au fond, la parole de Dieu elle-même, j'entends les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, les grandes études théologiques ne se trouvaient qu'à l'abri des monastères. Mais l'époque de Saint Anselme va être une époque tournante dans l'histoire du Moyen-Âge, parce que c'est à partir des années de la vie de Saint Anselme que peu à peu vont se développer les villes, et les écoles monastiques vont se trouver doublées, dans un premier temps, par les écoles municipales, par les écoles qui vont se développer dans les villes. Il va y avoir donc un tournant. Évidemment, le grand tournant se trouvera seulement au XVe siècle avec l'invention de l'imprimerie, mais déjà un premier tournant se fait, alors que tout avait été concentré dans les monastères, petit à petit les choses vont être concentrées dans les villes. Né en 1033, Anselme va très tôt, à l'âge de 24 ans, quitter sa Lombardie natale, à travers le col du Mont-Cenis, et il va se diriger vers la France. Et pendant 3 ans, il va mener une vie errante, allant d'abord dans la Franche-Comté, puis dans les pays de Loire, vers Chartres d'abord, puis Orléans ensuite, et puis finalement il va arriver en Normandie. Pourquoi l'importance de la Normandie ? C'est parce que, sans doute vous le savez, il y a eu, à ce moment-là, un homme très remarquable, qui est Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, qui tire son nom, alors qu'il était duc de Normandie, il tire son nom de la conquête de l'Angleterre. Et Guillaume le Conquérant a été une figure très importante dans l'histoire de l'Église, parce que c'est un homme qui avait le souci de l'Église, qui avait le souci de la vie spirituelle, qui avait certainement un amour ardent du Christ et qui a cherché, par exemple, à assainir autant que faire se pouvait la vie du clergé et la vie des monastères. Parce que vous le savez, le clergé, mais c'est une constante à travers l'histoire de l'Église, le clergé n'est pas toujours à la hauteur de sa mission. Je dirais même, on pourrait considérer dans les églises protestantes, les dérives aussi bien doctrinales que morales des pasteurs, quelquefois, ce n'est pas à l'honneur de l'Église. Enfin, Guillaume le Conquérant a eu le souci d'un clergé qui soit vraiment pieux, d'un clergé qui ait une conduite morale selon la loi de Dieu, et il a protégé, autant que faire se peut, les monastères. Non seulement déjà les monastères de la Normandie, mais déjà avant qu'ils ne conquièrent l'Angleterre, les monastères de la partie de l'Angleterre qui était déjà en rapport avec la Normandie avant même la conquête. C'est important de noter cela. La conquête ne s'est faite qu'en 1066, donc au moment où Anselme avait 33 ans, mais Guillaume le Conquérant, vraiment, n'hésitez pas à veiller sur le clergé et sur les monastères tant de la Normandie que de la partie est de l'Angleterre, qui était la partie en rapport étroit avec la Normandie déjà depuis des décennies. Anselme arrive donc en Normandie et il va devenir très vite en Normandie le prieur, c'est-à-dire celui qui était chargé de la direction spirituelle, le prieur et en même temps, comme on disait alors, l'écolâtre, c'est-à-dire l'enseignant des moines de l'abbaye du Bec. L'abbaye du Bec. L'abbaye du Bec avait été fondée par Herduin. Alors là, Herduin, je vais vous dire que ça s'écrit de tas de façons. Hein. Herduin, à cette époque, les noms, je dirais, avaient une certaine gymnastique variée. Bon, et c'est là, dans l'abbaye du Bec, qu'il va avoir à diriger des moines, et en même temps, où il va avoir à enseigner. Alors évidemment, l'enseignement, comme je vous le disais il y a 15 jours, c'était l'enseignement selon les 7 arts libéraux, le triglobe et le quadriglobe, mais certainement avec Anselme, il va y avoir un développement vers une étude approfondie de l'écriture. Et la devise d'Anselme dès cette époque, ça va être Illic solus Deus intentio mea, ce qui veut dire de ce seul Dieu, il s'agit du Dieu de l'Écriture, mon désir, ma quête, l'intention marque la direction. C'est la quête, c'est le désir de ce seul Dieu, du Dieu de l'Écriture. C'est la devise de saint Anselme. Et c'est dans cette période où il est jeune moine au Bec, en Normandie, que Anselme va écrire ses œuvres proprement philosophiques. Et il y a deux œuvres majeures d'Anselme à cette époque, le Monologion, qu'on pourrait traduire soliloque, on pourrait dire presque monologue, parce que c'est ça un soliloque, c'est un monologue. Et puis son autre œuvre, que nous allons voir davantage ce matin, son proslogion, là, le proslogion, on pourrait simplement traduire par allocution. Une allocution, c'est-à-dire c'est un discours. On pourrait traduire discours, là on pourrait traduire monologue pour monologion, et on pourrait dire discours pour proslogion. Et le proslogion a beaucoup compté dans la réflexion chrétienne, et c'est pourquoi j'y insisterai dans un moment. Encore quelques mots d'Anselme. À ce sujet, je fais une petite parenthèse, il vient de paraître un livre extrêmement important, à mon sens, d'un nommé Jean de Fécamp. C'est Jean de Fécamp, on le connaissait, il est indiqué dans la patrologie de Mines au XIXe siècle. Et enfin, son œuvre principale, qui s'appelait Laudatio, n'existait pas intégralement dans les traductions françaises. Or, on vient de publier, ces derniers mois, cette Laudatio, c'est-à-dire, ça veut dire louange, c'est une louange de Dieu, en trois parties, qui est un petit manuel de méditation théologique à l'usage de ceux, je dirais, qui pourront en avoir l'enseignement directement, et ou par les moines, ou bien en avoir écho par tel ou tel prêtre, tel ou tel pasteur, ou tel manuscrit. Alors, Jean de Fécamp, sa Laudatio, c'est important. Pourquoi ? Parce que, justement, Jean de Fécamp a été un des conseillers spirituels de Guillaume le Conquérant. Et, je dirais, si Guillaume le Conquérant a fait tout le travail qu'il a fait, c'était remarquable, quand même, en tant que souverain, profondément croyant, il a cherché, je vous l'ai dit tout à l'heure, à développer une vraie fidélité, une vraie piété, un vrai service parmi le clergé et les moines de l'époque. Et alors ça retentissait évidemment sur tout le reste du pays. Parce que, il faut le savoir, les monastères étant en quelque sorte des sortes de forteresses que très difficilement ruiner les invasions, et les monastères étant en même temps des lieux de méditation, je dirais, c'est autour d'eux que se groupaient souvent les gens, et on regardait au monastère comme à des foyers spirituels importants. Et la raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous la répète, c'est parce que l'imprimerie n'existant pas, eh bien, c'était là, dans les monastères, que se réfugiaient, qu'étaient réfugiés les manuscrits, tant de la Bible que des œuvres théologiques. Alors, qu'est-ce qui va arriver à Anselme? Après avoir été à l'abbaye du Bec, il va tout à coup se trouver promu d'une façon inattendue en étant archevêque de Canterbury. Vous savez que parmi les évêques, dans chaque pays, il y en a un qu'on appelait le primat. En France, par exemple, c'est l'évêque de Lyon qui était le primat des Gaules. Et c'est en Angleterre, c'est l'archevêque de Canterbury qui était le primat d'Angleterre. Et voici que tout à coup, Guillaume fait nommer Anselme comme archevêque de Canterbury. Alors là, je commence une seconde période de la vie d'Anselme qui va le faire naviguer de l'Angleterre au continent. Alors évidemment, il ira à Concile, il ira à Rome, et il va combattre contre le nouveau roi d'Angleterre, qui n'est plus Guillaume le Conquérant, mais Guillaume le Roux. Guillaume le Conquérant a eu plusieurs fils, et de ses deux fils aînés, il a fait l'aîné, qui n'était pas un homme de très grande envergure. Il lui a légué le duché de Normandie, puisqu'il était en même temps roi d'Angleterre et duc de Normandie. Alors donc c'est à son fils Robert qu'il a laissé le duché de Normandie, et c'est à un autre fils, qu'on a surnommé Guillaume le Roux, pour le distinguer, alors on pourrait dire Guillaume Ier pour Guillaume le Conquérant, Guillaume II pour Guillaume le Roux, mais enfin, en général, on les appelle Guillaume le Conquérant et Guillaume le Roux. Et Guillaume le Roux, lui, est donc devenu roi d'Angleterre, et c'était un prince tout à fait différent de son père. Autant Guillaume le Conquérant était un homme soucieux de la vie spirituelle dans ses états, autant au contraire, Guillaume le Roux ne pensait qu'à se remplir les poches, doit remplir les poches de l'État, mais l'État c'était lui, et lui c'était l'État. Et alors pour avoir de l'argent, il allait piller les biens des monastères, il allait payer les biens de l'Église. Et alors la lutte d'Anselme contre Guillaume le Roux va durer pendant des années. Et alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce qu'on appelle en histoire la célèbre querelle d'investiture. Si vous voulez, Guillaume le Roux voulait aussi pouvoir placer ses créatures à la tête des monastères, à la tête des évêchés, et il voulait avoir au fond le droit de nommer où il le voulait les évêques. Alors autant avec Guillaume le Conquérant, les nominations étaient de bonnes nominations, les investitures étaient de bonnes investitures, autant avec Guillaume le Roux, ça va être l'inverse. De plus en plus, à la tête des monastères et à la tête des évêchés, Guillaume le Roux va nommer ses créatures, toujours avec l'intention de se remplir les poches. Et le combat d'Anselme sera un combat pour la liberté d'Église. Au fond, l'idée d'Anselme, c'est que l'État, le roi, n'a pas à diriger l'Église. L'Église doit être dirigée par ceux qui ont été ordonnés au ministère. Ce ne sont pas les princes qui ont pouvoir d'autorité sur l'Église. Et ça, ça va durer, au fond, pratiquement pendant toute la vie d'Anselme, jusqu'à sa mort en 1109. Mort en 1109, et c'est dans un refuge, à un moment donné, à la campagne, en Italie, où il pouvait être tranquille et méditer, qu'il a écrit le livre dont je vous parlerai la semaine prochaine, c'est-à-dire son cours des Rousseaux. Donc, si vous voulez, c'est au bec que Anselme a écrit ses œuvres, qu'on appelle plutôt des œuvres philosophiques, comme le Monologon et le Proslogon, et c'est dans la campagne italienne, dans une maison qu'on lui avait prêtée, où il était dans la très tranquillité, et où il pouvait méditer vraiment, selon l'écriture, qu'il a écrit son cours des Rousseaux. Évidemment, le cours des Rousseaux, c'est le grand livre de saint Anselme, et vous le verrez par le cours que je ferai la semaine prochaine, la réforme a puisé abondamment dans le cours des mousses de saint Anselme, pour des Rousseaux, c'est-à-dire, vous savez, pourquoi Dieu s'est-il fait homme, pourquoi le Dieu homme, et ce sera repris comme un des textes majeurs, un des textes théologiques majeurs par les réformateurs, et je vous verrai même que ça a eu des grandes implications pour le sens de la doctrine de l'expiation, et donc pour le sens même de notre rédemption. Donc au niveau théologique, le cours des Rousseaux de cette enseigne est un des ouvrages majeurs de l'Église chrétienne. Alors, revenons maintenant aux œuvres philosophiques. Il y a une quarantaine d'années, j'avais trouvé chez un libraire un petit livre qui contient les œuvres philosophiques de saint Anselme. Et parmi ces œuvres philosophiques, le fameux Proslogon. Pour comprendre le Proslogon, il faut comprendre la réflexion que les théologiens et les philosophes chrétiens ont poursuivi au sujet de ce qu'on est convenu d'appeler les preuves de l'existence de Dieu. Et alors là, il y a deux courants complètement différents dans l'histoire de l'Église. Et ces courants différents aussi bien durant l'Église médiévale, occidentale, avant donc la Réforme, que ensuite ces deux courants ont subsisté aussi bien dans l'Église catholique, en tout cas jusqu'au XIXe siècle, que dans les Églises de la Réforme, au sujet du sens, de la portée de ces preuves de l'existence de Dieu. Vous savez que dans le chapitre 1 de la lettre aux Romains, saint Paul nous donne des affirmations qui ont lancé, si je puis dire, les théologiens sur la piste des preuves de l'existence de Dieu. Que dit saint Paul? Saint Paul dit que tous les hommes, tous les êtres humains, ont une certaine connaissance de Dieu. Calvin indiquera ça d'une certaine manière, en disant que dans tous les hommes existe un sensus divinitatis. Un sens de Dieu. Et saint Paul dit que tous les hommes, donc, connaissent Dieu. Pourquoi tous les hommes connaissent-ils Dieu? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, autour d'eux, toute la création prouve Dieu, manifeste. Saint Paul dit que la gloire éternelle et la divinité de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages de Dieu, dans les œuvres de Dieu. Autrement dit, le monde autour de nous prouve Dieu. Prouve Dieu, attention, pas par un discours, pas par des arguments impeccable, il ne s'agit pas de ça. Mais, de même, si vous voulez, que quand on voit un certain tableau, on dit, ça c'est du Matisse, ou ça c'est du Rouault. En quelque sorte, c'est signé Matisse, c'est signé Rouault, même s'il n'y a pas d'assignature. Mais là, toutes les œuvres de Dieu, toute la création, est signée Dieu. Autrement dit, la considération du monde fait que l'homme ne peut pas échapper au sensus divinitatis dont parlait Calvin, à la connaissance de Dieu dont parlait saint Paul. Tous les hommes déjà éprouvent, simplement pas en regardant le monde, qu'il y a Dieu, que Dieu est. C'est signé. Mais, pas seulement cela, l'homme lui-même, ayant été créé image de Dieu, l'homme ne peut pas se connaître lui-même, avoir quelques connaissances de lui-même, sans avoir en même temps quelques connaissances de Dieu. Puisque l'homme est imago Dei, image de Dieu, eh bien, la simple connaissance de soi fait que l'homme connaît Dieu. Donc, par les œuvres autour de lui, et par cette œuvre qu'il est lui-même, l'homme connaît Dieu. Mais attention, saint Paul poursuit, vous relirez le premier chapitre des Romains, et vous verrez que cette connaissance que l'homme a de Dieu, l'homme, la retourne contre Dieu. Autrement dit, connaissant Dieu, l'homme révolté contre Dieu divinise n'importe quelle réalité créée pour substituer ce mensonge à la vérité et pour planter son sensus divinitatis, son sens de Dieu, ailleurs qu'en Dieu. Si vous voulez, là, c'est pas saint Paul qui le dit, mais c'est une image que j'emploierai. Imaginons l'orientation du cœur humain, hein, je mets un T pour théos, hein. Normalement, le cœur de l'homme, ayant un sensus divinitatis, le cœur de l'homme est orienté vers Dieu. Mais, vous lirez ça dans le chapitre 1 des Romains, connaissant Dieu, c'est-à-dire ayant en lui ce sens de Dieu, à cause du monde autour de lui, et parce que lui-même est image de Dieu, l'homme détourne son cœur de Dieu, et comme en dehors de Dieu, il n'y a que les créatures de Dieu, il va orienter son cœur dans toutes sortes, son sensus divinitatis, il va l'orienter vers toutes les idoles ou les images possibles. Hein, vous voyez ? Voilà, il va orienter son cœur tout à l'heure, vers d'autres évidents. Alors, on a donc un paradoxe dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. À la fois, Paul affirme que tout homme connaît Dieu. Et en même temps, il affirme que connaissant Dieu, il se détourne de Dieu et rend un culte à une créature au lieu du créateur. Autrement dit, l'homme a un sens de Dieu, et à cause de sa rébellion contre Dieu, de son péché, il met son sensus divinitatis, son sens de Dieu, ailleurs qu'en Dieu. Et ailleurs, comme il n'y a que Dieu et ce que Dieu a fait, eh bien, vous savez, il va adorer la créature au lieu du créateur. Et Paul conclut, après avoir dit, tout homme connaît Dieu, mais ensuite du péché, tout homme s'est détourné de Dieu, saint Paul ajoute, c'est ce qui rend tout homme inexcusable. L'homme est inexcusable, parce qu'ayant le sens de Dieu, connaissant Dieu d'une certaine manière, il se refuse à rendre un culte à ce Dieu qu'il connaît, et il met sa foi en n'importe quelle idole, en n'importe quel faux Dieu, il détourne son sens de Dieu vers n'importe quoi d'autre que Dieu. Ça va très loin. Je pense que ça va très loin pour nos entretiens avec les non-croyants. Ça va très loin, je dirais, pour l'évangélisation ou pour la mission de l'Église. Nous sommes en face d'hommes, et je prends le mot homme au sens général, en français, n'est-ce pas, on n'a pas la différence qu'il y a en allemand. Il y a deux sens, il y a l'homme au sens masculin, et puis l'homme au sens neutre, qui est donc ni masculin ni féminin. Quand j'emploie le mot homme, c'est au sens neutre, donc il y a la femme que l'homme masculin. Hein. Tout homme, donc, a un sens de Dieu, en révolte contre Dieu, et quand nous allons converser avec un incroyant, au fond, c'est faux, il n'y a pas d'incroyant. Il n'y a que des hommes qui ont détourné leur foi, qui normalement est faite pour Dieu, vers une idole, vers un faux Dieu. Ils préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur, alors que leur cœur est fait pour Dieu. Alors que l'orientation de leur sensus divinitatis, c'est une orientation qui est faite. Alors c'est important ça. Quand quelqu'un nous dit, oh, moi je n'ai pas la foi. Il faut immédiatement le démentir cela et de lui dire, mais si tu as la foi, seulement au lieu d'avoir foi en Dieu, tu as foi, quoi ou quoi. Mais tout homme a ce sens de Dieu orienté vers quelque chose d'autre que Dieu, tant qu'il ne retourne pas vers Dieu. C'est ce qu'exprimait très bien saint Augustin quand il disait que notre cœur et inquietus. Alors on ne peut pas traduire inquiet, il faut mieux traduire sans repos. Notre cœur est sans repos, inquietus. Notre corps est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Et au fond, c'est ça. Nous avons affaire à des croyants qui mettent leur foi en n'importe quoi, sauf en Dieu. Sauf en le vrai Dieu, c'est-à-dire sauf dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sauf dans le Dieu de Jésus-Christ, sauf dans le Dieu de la Bible. Alors la question, c'est pas de mettre la foi là où il n'y a pas de foi, mais c'est de ramener la foi vers Dieu. Qu'est-ce que c'est que le but de l'évangélisation et de la mission? C'est de ramener toutes ces fausses religions vers le vrai Dieu. Donc au fond, qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est remettre sa foi dans la bonne direction. Et d'ailleurs, le mot grec métanoïa, conversion, c'est ça. C'est le sens. Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est ramener la foi de quelqu'un d'une idole qu'il sert et à laquelle il rend un culte, vers le vrai Dieu, le Créateur et le Rédempteur du monde. Donc il faut bien voir ça. Tout homme a la foi. Seulement il faut sa foi dans une mauvaise direction. Au lieu de mettre sa foi en Dieu, il met sa foi en une idole ou en une idéologie, en une création de son esprit. Et alors, ça peut être des choses, j'allais dire, minables. Vous avez des gens qui ne vivent que pour le sexe, ou qui ne vivent que pour la drogue. Ou qui, bon, ça c'est des choses minables. Mais vous avez des gens qui mettent leur foi en, dans la raison humaine, par exemple. On peut absolutiser la raison humaine. Mais la raison humaine, ou la science, à la place de Dieu. Et alors, si la science a décrété des choses, si la raison humaine décrète des choses, eh bien, ça y est, il faut... Vous voyez, c'est important. Alors, si je vous dis ça, alors là, il y a un livre qui pourra vous éclairer. Il y a deux livres qui peuvent vous éclairer. Il y a d'abord l'Institution chrétienne. Parce que l'Institution chrétienne, je dirais, c'est un livre tout à fait dans le sens augustinien, dans lequel Calvin cherche à montrer, justement, quelle doit être la vraie direction de notre consensus des universités. Et là, on peut dire que Calvin est l'héritier direct, à travers cet Augustin, il est l'héritier de saint Paul. Tout homme connaît Dieu, mais par révolte contre ce Dieu qu'il connaît, il se détourne de Dieu pour croire en une idole. Et au fond, il est appelé par l'Esprit Saint et par la parole de Dieu, il est appelé par Dieu à revenir à Dieu. Alors il peut avoir une idole qui ne vaut pas grand-chose. Par exemple, celui qui sert le sexe ou qui sert la drogue, c'est vraiment très lamentable. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil. La foi en la science, ou la foi en la raison humaine, ou simplement comme l'humanisme, je dirais ça bien d'ailleurs, c'est un humanisme, toute fausse direction est un humanisme. C'est l'homme qui finalement choisit son Dieu et à la limite se prend lui-même comme Dieu. Alors, nous ne pouvons bien comprendre saint Anselme et son proscogone qu'à la lumière de ce que je veux dire. Alors, c'est développé dans un autre livre, l'Institution chrétienne Calvin, et il y a un livre intéressant qui s'appelle Christian Theory of Knowledge. C'est-à-dire une théorie chrétienne de la connaissance. C'est un livre qui malheureusement existe en anglais, de Cornelius Van Til. C'est un livre qui a été publié en 1969. C'est dommage qu'il n'y avait pas de traduction française. Je ne sais pas s'il y aurait une traduction espagnole. Par votre connaissance, mais ça c'est un livre à lire. Parce que ce que je vous ai dit, j'avais un grand trait, là, comme ça, je dirais, Van Til le montre avec des exemples précis. Et alors, nous allons maintenant aborder et voir dans les 10 minutes qui nous restent. Au fond, j'ai déjà traité de la question du François dans tout ce que je viens de dire. Alors, vous allez voir un peu ce que dit saint Anselme, et le mieux c'est que je vous lise au fond ce que dit saint Anselme dans le François. Alors, le François est un petit. 26 chapitres, mais en réalité, ce sont des chapitres souvent qui n'ont qu'une page, deux. C'est donc un livre très court. Et c'est un livre vraiment à méditer. D'ailleurs, attention, il ne s'agit pas de prouver Dieu au sens où l'on pourrait faire des preuves en mathématiques. En mathématiques, ben, si vous voulez, la preuve s'impose. On peut démontrer un certain nombre de choses, en particulier par exemple en géométrie, sur la base des principes, des axiomes d'Euclide, on pourra démontrer des tas de choses intéressantes. Mais encore faut-il admettre ces postulats. Par exemple, que par un point situé hors d'une droite, on ne peut mener qu'une parallèle à cette droite. Or, vous savez que ce sont des géométries non euclidiennes qui vous montrent, ou bien que par un point pris hors d'une droite, on ne peut mener aucune parallèle à cette droite. Ou bien que par un point pris hors d'une droite, on peut mener plusieurs parallèles à cette droite. Et ces géométries indéclinées, a priori, ça nous semble un peu dingue, parce que pour nous, c'est clair que par un point, on ne peut mener qu'une parallèle à une droite, mais on est arrivé à des résultats extrêmement intéressants sur le plan pratique, à partir des géométries qui rejettent le postulat d'Euclide, des géométries non euclidiennes qui sont développées en particulier en notre siècle. Alors, il ne s'agit pas de preuves dans ce sens. Ce que veut montrer Anselme, c'est que une méditation pour une personne cherchant à connaître ce qu'elle ne sait pas, c'est de trouver au fond une raison. Et alors vous avez la célèbre preuve ontologique, qu'on appelle la preuve ontologique de Saint Anselme, qui a fait beaucoup de bruit à travers toute l'histoire de la philosophie ontologique de Saint Anselme, et qui consiste à dire, au fond, nous ne pouvons concevoir ce qui domine tout, ce qui est le plus grand bien, la plus grande puissance. Bref, nous ne pouvons concevoir ce qui est supérieur à tout, sans que, en même temps, celui que nous concevons ainsi soit en même temps vrai dans notre intelligence, s'imposant à notre intelligence, et soit aussi dans la réalité. Parce qu'en effet, dit Saint Anselme, seul l'insensé dit « il n'y a pas de Dieu ». Seul l'insensé nie Dieu. Seul l'insensé, pour reprendre ce que dit Stalman et Vanti, seul l'insensé peut mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Il n'y a que l'insensé. Pour faire une... Là, c'est important par rapport à ce que je disais, l'insensé. Il faut bien prendre ce terme du psaume dans le sens qu'il n'y a que celui qui n'est plus orienté dans la bonne direction, et celui-là, l'insensé. Il n'y a que celui qui est insensé, dont le cœur n'est plus fiché vers Dieu, orienté vers Dieu, il n'y a que l'insensé qui puisse dire qu'il n'y a pas de Dieu. Au fond, l'insensé, en même temps, est inexcusable, parce qu'il sait, d'une certaine manière, qu'il y a un Dieu. Dieu s'impose à lui, par la création et par le fait qu'il est à l'image de Dieu. Et cependant, il est assez fou pour dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et alors, je vous lis donc un texte de Saint Anselme du Prochain. J'espère que vous verrez la beauté de ce texte. Occupe-toi de Dieu. Repose-toi en lui. Entre dans la cellule de ton esprit et excluant tout sauf Dieu et ce qui peut t'aider à le chercher. Et ayant clos la porte, cherche-le. Toi, mon Seigneur et mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment il doit te chercher. Où et comment il te trouvera, Seigneur. Seigneur, si tu n'es pas ici, où devrais-je te retrouver? Mais si tu es partout, pourquoi ne vois-je pas ta présence? Tu demeures certes dans une lumière inaccessible, mais où est-elle, cette lumière inaccessible? Et comment accéderai-je jusqu'à elle? Qui me guidera et m'introduira jusqu'en elle pour que je t'y voie? Sous quels aspects, sous quel visage te chercherai-je? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, je ne connais pas ton visage. Que fera donc, Seigneur très haut, que fera cet exilé si près de toi? Que fera ton serviteur tourmenté de ton amour et rejeté si loin de ta face? Il désire tellement te voir, et ton visage est si loin de lui. Il désire t'approcher, et ta demeure est inaccessible. Il veut te trouver, et ne sait pas où tu es. Il veut te chercher, et ignore ton aspect. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon maître, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as créé, tu m'as recréé, tous mes biens, c'est toi qui me les as donnés, et je ne te connais pas encore. J'ai même été créé pour te voir, et je n'ai pas encore fait ce pour quoi j'ai été créé. Oui. Et alors, je ne vous dis pas ce passage en entier, mais je vous ferai toucher du doigt la clé de Saint Anselme par la fin de cette prière. Demeure en plusieurs pages. Je ne tente pas, Seigneur, de pénétrer ta hauteur, car je ne puis nullement lui comparer mon intelligence. Mais je désire comprendre autant que possible ta vérité, cette vérité que croit et aime mon cœur. Car je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Car je crois aussi que si je ne croyais pas, je ne comprendrais pas. Et la parole est importante, c'est « je ne cherche pas à comprendre pourquoi, mais je crois pour comprendre ». En latin, c'est « neque enim quero intelligere ut credam ». En effet, je ne cherche pas à comprendre pourquoi, c'est le « credo ut intelligere ». Mais je crois pour comprendre. Alors ça, c'est la clé. Et je vous ai dit qu'il y a deux directions à travers toute l'histoire. Mais il y a ceux qui pensent, comme en particulier les Tobies, que dans un premier temps, ou si vous voulez, à un premier niveau, il faut que les hommes cherchent à comprendre. Et s'ils comprennent, c'est ça la première étape, si leur raison leur permet de comprendre, alors ils auront une certaine base pour croire. Ça, c'est une des directions. Et dans le protestantisme, comme dans le catholicisme, bon, un premier temps, je cherche à comprendre. Un deuxième temps, une fois que j'ai déjà compris quelque chose, alors je peux, sur la base de ce déjà compris, je peux comprendre. Tandis que la position d'Augustin, d'Anselme, de Luther et de Calvin, c'est la position inverse. Je crois, je me fie en la parole de Dieu, je me confie en la parole de Dieu, je crois en Jésus-Christ, je me confie à Jésus-Christ. Et sur la base de cette foi, alors je peux commencer à comprendre. Alors vous voyez, il y a deux ordres divers. Hein? Il y a ou bien premier niveau, comprendre. Deuxième niveau, croire. Hein? Ou bien premier niveau, croire. Et deuxième niveau, comprendre. Et ça, c'est la devise d'Anselme. Credo ut intelligere. C'est-à-dire, je crois afin de comprendre. Autrement dit, il faut Jésus-Christ, la parole de Dieu incarné. Il faut l'Écriture sainte, la parole de Dieu écrite. Et sur la base de ma foi en Jésus-Christ et en la parole de Dieu qui est l'Écriture, alors je peux commencer à comprendre. À comprendre qui est Dieu, qui je suis, quel est le sens de l'existence du monde, quel est le but des diverses sciences. Ou bien, si je ne fais pas cela, alors je vais essayer, dans un premier temps, de comprendre sans croire. Et on va se poser la question, mais si je pense comprendre sans croire, comment parviendrai-je à croire? Et alors ça, c'est capital, ça. Voyez-vous, c'est le sens du proslogion. Le sens du proslogion, c'est ce sens-là. Il faut croire en Dieu pour comprendre. Je ne peux me comprendre vraiment que si je crois en Dieu. Et alors, nous touchons à, et c'est pas ma dernière parole, nous touchons au sens de la philosophie. Vous savez que le mot philosophie veut dire amour de la sagesse. Or, qu'est-ce que nous dit la vie? Elle nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, non pas la peur de Dieu, c'est pas le sens du mot de crainte, mais la révérence de Dieu, le sens de Dieu. Je ne peux connaître vraiment la sagesse que par celui qui est la sagesse. C'est Dieu qui est notre. C'est la parole de Dieu qui est notre sagesse. C'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. Alors, si je connais Dieu en Jésus-Christ et par la Sainte-Écriture, si je connais Dieu, je pourrai commencer vraiment à réfléchir, à comprendre, à faire de la philosophie, à faire de la théologie, à développer les sciences. Tandis que l'inverse n'est pas possible. La crainte de Dieu, l'honneur dû à Dieu, le respect dû à Dieu, l'adoration de Dieu, le culte rendu à Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas commencer par la sagesse. Il faut commencer par Dieu. Parce que c'est en commençant par Dieu que les choses s'éclairent et que nous nous éclairons nous-mêmes. Et alors c'est tout le sens de tous les premiers chapitres de l'institution chrétienne de Calvin. Calvin dit, connaître Dieu et se connaître, c'est la même chose. Si je me connais vraiment, c'est parce que je connais Dieu. L'homme étant image de Dieu, c'est en connaissant Dieu que je pourrai savoir qui je suis, vers qui je dois tendre, qui je dois chercher. Alors nous retrouvons là la devise d'Anselme que je vous disais tout à l'heure, illic solus deus intentio mea. C'est-à-dire que c'est ce seul Dieu qui doit être mon intention première et dernière. Et si ce seul Dieu, ce Dieu de la Bible, et mon intention première, alors tout le reste s'élèvera. Et le monde entier viendra chanter la gloire de Dieu. Et les cieux s'élèvent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et en dedans de moi, puisque j'ai été créé à l'image de Dieu, voilà que par Dieu, j'aurai la clé de la connaissance du monde et de la connaissance de moi-même. Je ne veux vraiment connaître la création que si d'abord je reconnais son créateur et son sauveur. Et je ne puis vraiment commencer à le connaître que si je connais d'abord celui qui m'a fait pour lui, qui m'a créé à son image et qui en Jésus-Christ me reforme à son image. Voilà. Alors nous verrons la semaine prochaine, le livre beaucoup plus important de Saint-Anselme, qu'on découvre des